Avec Annie Göttinger à BD Boom à Blois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va s'intéresser à Marie-Antoinette Reine Fantôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est arrivé ce projet ?
C'est un projet qui vient de loin, qui revenait un petit peu comme un leitmotiv entre Rodolphe et moi, qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Il m'avait passé un livre qui a été écrit par ces deux Anglaises, Miss Mauberly et Miss Jourdain, qui parlait de ces curieuses rencontres qu'elles avaient faites dans le Trianon au début de l'autre siècle. Et donc, il y avait cette idée, on aime bien les fantômes tous les deux, des fantômes qui fassent pas trop peur. Et puis en même temps, donc on avait lu ce bouquin il y a pas mal de temps. On l'a relu il y a 3 ans et on est tombé d'accord sur le fait que l'histoire nous intéressait toujours, mais qu'en même temps c'était un fait divers qui tenait en une dizaine de pages. Donc on s'est ingénié à étoffer cette aventure et surtout créer un personnage plus contemporain en contrepoint à la reine, parce qu'on voulait pas non plus reprendre l'aspect historique de la chose, à savoir remettre ces deux Anglaises en 1901 à Trianon, en se disant pour un public d'aujourd'hui, un vêtement 1900 et une robe à panier, il n'y a pas une grosse différence. Donc moi je disais à Rodolphe, ce serait bien de décaler ça un petit peu dans les années 30, parce qu'on a une silhouette de femme beaucoup plus longiligne. On a aussi des voitures un peu plus modernes, donc le contraste avec le 18e est plus intéressant et plus visuellement plus riche.
C'était particulièrement intéressant pour vous d'avoir cette héroïne qui évolue dans tout ce qui est l'avènement de la psychanalyse, l'art au sens large du terme à l'époque des années 30, et qu'elle se retrouve dans l'ancien puisqu'elle est frappée de plein fouet par ce fantôme. Il l'accompagne un peu partout quand même.
Oui, ce qui était amusant, c'est de trouver cet enchaînement avec Maud qui se découvre médium. Et qui tout à coup vit sans l'avoir choisi avec la reine. Alors la complexité de l'histoire, c'était quand même de créer justement, de construire cette amitié entre les deux, parce qu'on ne peut pas imaginer que cette femme tout à coup se dise « je vais aider la reine ». Il faut qu'il se passe quelque chose, qu'elle se raconte l'une l'autre pour enrichir cette relation. Et que pour le coup, elle ait vraiment envie d'aider la reine.
Vous avez une affection particulière pour les spectres, les fantômes, hein, ou c'est juste venu comme ça en support à une narration ?
Non, je peux pas dire que je poursuis les fantômes, loin de là. Mais en même temps, je suis prête à croire à la chose. J'ai moi-même eu au fil de ma vie des rêves prémonitoires. Je suis sensible à ce qui vient de... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'au-delà en quelque sorte. Mais je suis pas une ésotériste distinguée, bien loin de là.
Et au niveau de l'illustration, ça posait des problèmes de faire apparaître justement ce fantôme un peu partout, où il a assez de consistance au niveau du dessin pour être un personnage quasiment quelconque.
Non, c'est pas du tout un personnage quelconque, et en même temps, ce qu'il était important de faire comprendre au lecteur, c'est qu'il s'agit bien d'un fantôme, qui s'incarne, qui se désincarne, qui à certains moments apparaît, disparaît, d'une manière presque fantaisiste. Je voulais pas que ça effraie, et à la limite qu'à certains moments soit même cocasse. Quand au cours d'une conversation, elle dit « ah mais non, mais je suis pas là, je m'en vais ». Je pense qu'il faut jamais retirer dans nos histoires la complexité des récits, qu'on peut raconter des choses tout à fait sérieuses et dramatiques, et qu'en même temps l'humour est aussi le bienvenu. C'est pas une façon de se moquer des lecteurs, c'est plutôt une manière de distraire.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dessiner au niveau des ambiances, hein, au niveau de l'époque ?
Moi j'aime toutes les époques, il se trouve que le 18e je l'avais pas beaucoup dessiné. Par ailleurs, j'ai fait beaucoup d'histoire du costume, j'ai fait un peu de costume de théâtre. Donc je me suis dit, ben voilà, c'était aussi une palette que je n'avais pas abordée. Ça faisait longtemps que je faisais pas de la couleur directe. Donc un concours de circonstances qui venait très bien. Après, que ce soit les années 30, le 18e, le 19e ou les années 50, ce que je fais avec Agence Hardy, dans mon esprit, il faut toujours le prendre avec le même sérieux, à savoir apporter suffisamment d'informations, de codes qui appartiennent aux époques respectives, pas pour embêter le lecteur, mais là aussi pour nourrir la narration. Et à la limite, il n'est pas important que les gens voient tout ce qui existe, mais je sais que si tout ça n'est pas là, les gens n'y croient pas.
comment est-ce que vous travaillez au niveau des recherches, au niveau des influences graphiques?
Les influences graphiques, je m'en éloigne parce que je regarde jamais les autres dessinateurs. Enfin, je suis leur travail, mais je vais pas piocher mon inspiration dans les albums des autres. Par contre, j'ai quand même une bonne bibliothèque, et puis à chaque histoire, on se bâtit aussi sa doc à la mesure de nos besoins. Ça va principalement des livres, bien sûr, recherche internet, mais très ponctuellement, parce qu'internet c'est bien, mais tout le monde a accès aux mêmes infos. Alors que par goût, par expérience, je trouve que les bibliothèques, la documentation livresque apporte davantage de surprises, et puis ça nourrit d'une autre manière. Internet, on clique, on trouve le site, on imprime des trucs, et puis voilà, ça disparaît. Alors que le livre, il reste dans la bibliothèque, on compare, on confronte, c'est autre chose. Alors bien sûr, cette documentation-là, quand c'est possible, pour des périodes plus récentes, aller sur place. Versailles, bien sûr, existe. Mais c'est pas le Versailles non plus des années 30. Il est maintenant beaucoup plus joli qu'il l'était autrefois. Livres, curieusement, musique, tout. En fait, on s'imprègne de beaucoup d'éléments pour construire une histoire.
Justement, au niveau de la musique, est-ce que vous travaillez en musique?
Oui. Musique, radio, oui. Et en musique, mes goûts sont extrêmement éclectiques.
Et vous avez écouté de la musique de l'époque pour cet ouvrage?
Non, pas spécialement, mais je peux écouter du Led Zeppelin en dessinant Marie-Antoinette, ça me dérange pas. Comme je peux écouter du Mozart quand je dessine Agent Sardis, aucun souci.
Et du coup, s'il y avait une bande-son à mettre sur cet ouvrage-là, qu'est-ce qui serait préférable? Plutôt reprendre l'ambiance du petit Trianon et puis à l'époque de la Reine, ou plutôt les années 30 avec toute la liberté musicale qu'il y avait?
Je pense qu'il y aurait les deux. Il y aurait peut-être de l'opéra du 18e, et en même temps il y aurait du jazz des années 30, oui, bien sûr. Peut-être un peu de musique française, du Gabriel Fauré, des choses comme ça, du Ravel.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer une bande-son hyper moderne pour faire encore une troisième époque?
Ah ben là, vous pensez certainement au film de Sofia Coppola. Je pense que pour aborder ce thème-là, il faut quand même avoir suffisamment de complicité avec la musique pour, même s'il s'agit de mariage apparemment improbable, il faut quand même qu'au départ, cette musique-là nous touche. Là, vous me prenez au débeauté, je ne pourrais pas vous dire quelle musique j'aurais choisi.
Un mot sur l'ambiance du festival?
Très bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup venir à Blois parce que c'est un festival où il y a une très bonne organisation. Les dédicaces sont très équilibrées. On a le temps. Il y a suffisamment d'auteurs, j'imagine, pour le public. Mais en même temps, nous, on a le temps de nous rencontrer entre nous, de faire connaissance dans certains cas, parce qu'il y a des tas de jeunes auteurs qui arrivent. Et puis aussi de discuter avec les gens en dédicace. Là, il se trouve que cette année, c'est une année particulièrement ensoleillée, ce qui rajoute encore au plaisir d'être ici.
Vous laissez le choix dans les dédicaces, ou est-ce que vous orientez un petit peu sur ce que vous dessinez?
Généralement, comme je dédicace principalement à Jean Sardy et la Reine Fantôme. Bon, la Reine Fantôme, de toute façon, tout le monde me demande Marie-Antoinette, donc c'est très simple. En ce qui concerne à Jean Sardy, comme j'ai déjà un certain nombre d'albums, il y a des gens qui me demandent de dessiner Edith si c'est leur premier, d'autres qui me demandent les autres personnages, donc voilà. Mais vous savez, la dédicace, c'est un exercice c'est une griffe, c'est une signature. Même si c'est un dessin, c'est très très loin, éloigné de ce que l'on fait à la table à dessin. Et puis, ça relève un peu de l'écriture automatique. Même si on essaye d'y mettre un peu de personnalité, mais c'est assez stéréotypé, faut dire ce qu'il y a.
Est-ce que vous avez vu les expositions?
L'exposition Gibra, naturellement. Je suis contente parce que j'ai pu la visiter ce matin. Hier, je suis arrivée trop tard et il y avait beaucoup de monde pour l'inauguration. Donc ce matin, j'ai vraiment été dans un univers totalement à part. Et ça, c'est vraiment la force d'un auteur qui a un talent extraordinaire. Ça, c'est enfoncer les portes ouvertes. Mais surtout, l'amour de son travail. Chaque vignette est travaillée comme... en même temps, c'est un récit, mais elle est travaillée individuellement. C'est un délice pour les yeux. Et je pense aussi que c'est l'occasion de découvrir combien c'est un travail artistique, opiniâtre, dans lequel on peut pas dire mais combien de temps vous avez mis pour faire une page, deux pages, on s'en moque. Chaque vignette, à mon avis, demande des heures et des heures de travail. même s'il a une technique magnifique, c'est derrière tout ça, au bout du compte, avant le résultat, un formidable travail de dessinateur.
Quelle est votre actualité en tant qu'auteur et surtout quels sont vos prochains albums ?
Mon actualité, c'est donc, comme je vous le disais, demain d'aller à Versailles pour signer Marie-Antoinette. Et puis, en dehors de ça, j'ai publié le 7e tome d'Agence Hardy au printemps prochain.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est une sorte de rêve impossible. C'est-à-dire que si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, qui serait cet artiste et quel serait votre projet ?
Je reviendrai à mes dadas. Je dirais travailler avec Paul Poiret, qui était un grand couturier du début de l'autre siècle, qui a travaillé jusqu'à la fin des années 20. Et j'aurais voulu être petite souris pour me glisser dans l'atelier et voir comment, autour de 1910, il a complètement révolutionné la silhouette féminine.
Merci beaucoup.
Merci à vous.